RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. J'espère que vous avez toutes et tous passé un agréable été. Pour revenir à l'Union Européenne, nous retrouvons dans ses valeurs la démocratie, l'égalité et la non-discrimination. La première se traduit bien évidemment par le droit de vote, mais pas seulement. En effet, depuis 2011, l'initiative citoyenne européenne, ICE, permet à 1 million de citoyens européens d'appeler la Commission européenne à légiférer sur un sujet donné. Début 2024, une nouvelle initiative a été enregistrée, il s'agit de l'interdiction des pratiques de conversion dans l'Union européenne. Cette thématique rejoint la volonté de l'Union européenne de défendre l'égalité et l'inclusion des personnes LGBT+ au sein de son territoire. Ce vendredi 14 septembre, à Limoges, se tient la troisième édition de la Marche des Fiertés, dans laquelle la Maison de l'Europe aura un stand pour informer sur l'Union européenne en lien avec ce thème-là. Et c'est un événement aussi qui permet de lutter contre ces inégalités et favoriser l'inclusion de cette communauté. Ainsi, pour en savoir davantage sur cette initiative citoyenne européenne, nous accueillons aujourd'hui Matteo Gargillo, co-président de l'association ACT Against Conversion Therapy et représentant de la campagne. Bonjour Matteo, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Avant d'en savoir davantage donc sur cette initiative, pourriez-vous définir aux auditeurs ce que sont les thérapies de conversion ?
Bien sûr. Alors, les thérapies de conversion ou les pratiques de conversion, ça représente l'ensemble des interventions et des pratiques qui visent à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne LGBT. Pour faire très simple, moi je suis un homme homosexuel et les pratiques de conversion, ça serait les pratiques qui viseraient à me rendre soit moins homosexuel, entre guillemets, ou à me rendre hétérosexuel, à me guérir de mon homosexualité. Ces pratiques-là, elles prennent plusieurs formes, parfois via des fausses thérapies menées par des psychologues autoproclamés, des thérapies médicamenteuses, c'est-à-dire forcer une personne LGBTI à prendre des hormones pour la rendre plus virile ou plus féminine, allant à de la pression psychologique par des proches, par de la famille, des groupes de parole, mais aussi des groupes de prière, des prières de délivrance, et parfois des exorcismes pour libérer des personnes du dit démon de l'homosexualité. Je dis ça car ça a été le cas en France à l'été 2023. On estime, selon les divers rapports d'enquête, qu'environ 5% des personnes LGBTI se sont vues offrir des pratiques de conversion et qu'entre 1 à 2% en ont subi dans l'Union européenne. On parle donc de centaines de milliers de personnes, de centaines de milliers de victimes. Et l'ONU reconnaît ces pratiques comme des pratiques de torture depuis 2020 qui détruisent les individus et les poussent parfois au suicide. Ces pratiques-là, elles trouvent leur fondement sur deux idées erronées. Le fait que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre serait le résultat d'un choix ou d'une influence, parfois d'une puissance maligne, mais aussi sur l'idée que l'on peut changer ou guérir une personne. Et je vais dire directement, il n'y a rien à guérir.
Et comme je l'ai mentionné dans mon introduction, vous représentez l'association ACT, qui a été créée en 2023, justement pour lutter contre ces thérapies de conversion. Est-ce que vous pouvez la présenter et comment est-elle née? Quelle est son origine?
Oui, bien sûr. Alors, ACT, ACT, ça vient de l'anglais, comme vous l'avez dit, Against Conversion Therapy, donc contre les thérapies de conversion. Ce nom-là, il rappelle un petit peu l'association ACT UP, pour ceux qui la connaissent, qui avait milité en France contre le sida à l'époque de l'épidémie. Et ACT a été déclaré à la préfecture du Rhône en juillet 2023, et on peut dire que l'idée, elle vient de moi. En fait, en France, quand il y a eu les débats sur l'interdiction des thérapies de conversion, donc dès 2020 jusqu'en 2022 à la promulgation de la loi, j'ai d'abord, dans un premier temps, été très choqué par ces pratiques, et j'ai voulu m'y opposer d'une manière ou d'une autre, me prendre sur le sujet. Et la même semaine où j'ai découvert les premiers témoignages de victimes, j'ai découvert le mécanisme de l'initiative citoyenne européenne dont il est question aujourd'hui. Et j'ai directement réalisé qu'en fait, que l'interdiction de ces pratiques de conversion, elle pourrait rentrer dans les compétences de la Commission européenne et donc que c'était une initiative citoyenne européenne possible. Et comme je suis quelqu'un qui est en fait très pro-Europe, je me suis dit que lancer cette campagne pour lutter contre ce fléau, ça pourrait permettre de faire avancer le droit des personnes LGBT dans des pays d'Europe de l'Est qui pourraient être un peu plus en retard, sans causer trop de polémiques. Car en effet, l'interdiction des thérapies de conversion étant des pratiques de torture, c'est un sujet qui ne fait pas trop débat et dans lequel on retrouve souvent un consensus. Il faut juste mettre le sujet sur la table. Et en arrivant à Sciences Po Lyon, où je fais actuellement mes études, j'ai rencontré mon ami Robin, l'autre co-président de ACT, et lors d'une soirée étudiante, je lui ai exposé le projet et il m'a dit « Banco, viens, on le fait ». Et on l'a fait. On y passe le plus clair notre temps en dehors des études depuis, et aujourd'hui, ACT correspond à une dizaine de bénévoles qui gèrent la campagne.
Et donc, vous avez réussi donc à enregistrer votre initiative le 24 janvier 2024, qui a été donc validée par la Commission européenne. Et pour ce faire, il faut réunir un comité d'au moins 7 représentants de 7 pays de l'Union européenne différents. Qu'en est-il, vous, dans votre cas? Donc là, vous avez dit que vous avez réussi à rassembler certains bénévoles, mais concernant l'Union européenne en général, comment vous avez réussi à convaincre, entre guillemets, d'autres personnes pour rejoindre votre comité? Et comment donc vous avez procédé?
Alors, déjà la question de comment est-ce qu'on enregistre une initiative européenne, c'est une très bonne question. Et comme on vient de le dire, c'est une initiative européenne. Donc il faut des représentants de 7 pays différents. Et très simplement, en fait, dès la déclaration de l'association l'été dernier, les autres bénévoles de ACT francophones, on a commencé à contacter des associations LGBTI dans la majorité des pays de l'Union européenne pour, dans un premier temps, leur présenter le projet et savoir, en fait, si ça voudrait les intéresser d'y participer. Et dès septembre, on avait déjà regroupé plus de 7 représentants, 7 personnes de différentes nationalités, et on cherchait à en obtenir le plus possible avant de lancer la campagne pour couvrir la plus grande partie du territoire européen. Aujourd'hui, on mène campagne avec 106 associations LGBTI dans 17 pays de l'Union européenne, avec une dizaine de représentants officiels de la campagne selon les pays, et on cherche toujours à s'étendre. On collabore avec des associations majeures au niveau de l'Union européenne, comme Arci Gay en Italie, qui est la plus grande association LGBT en Italie, RFSL en Suède, et plein d'autres associations dans toute l'Union européenne. Et en fait, quant à la procédure pour lancer une initiative, elle est en fait relativement simple pour une procédure européenne, c'est-à-dire qu'il y a simplement un formulaire de quelques pages à remplir sur le site de la Commission européenne. Et en réalité, il vous faut juste une personne qui dispose de compétences de droit de l'Union européenne pour y parvenir. C'est-à-dire que même moi, à 19 ans, j'avais pu le faire sans de réelles difficultés. Donc si vous qui nous écoutez, vous souhaitez lancer une initiative citoyenne européenne, vous le pouvez. Et je pense que le plus dur, ce sera probablement de trouver 6 personnes d'autres pays pour vous suivre.
Et justement, est-ce que ces 6 autres personnes ont dû compléter la même charge de travail que vous, ou vous avez juste, par exemple, dû les joindre à vous en tant que contact, par exemple?
Alors, je pense que c'est une question qui va varier selon les initiatives citoyennes européennes.
D'accord.
Dans le cas de notre campagne à nous, ACT s'est directement portée volontaire pour mener la campagne et la coordonner à elle-même, car en fait, les associations nationales, elles doivent aussi s'occuper des problèmes nationaux. Donc, ce que l'on proposait à ACT, c'est de réaliser tous les travaux administratifs et toutes les relations avec la Commission européenne. Et les associations nationales, elles, ne relieraient juste la campagne sur leurs réseaux sociaux et par leurs propres moyens. C'est-à-dire que tout ce qui relève de l'administratif, c'est ACT qui le gérons. Et en fait, les personnes qui représentent la campagne dans leur pays, en réalité, ont juste fourni leur papier d'identité auprès de la Commission européenne et en fait, nous servent juste de relais.
Et justement, à travers cette initiative, vous interpellez la Commission européenne au sujet donc de ces pratiques. Une fois le million de signatures atteint, la Commission, elle, devra agir en s'oppositionnant sur cette initiative, donc soit décider de faire quelque chose pour lutter contre ces thérapies de conversion, ou alors décider de ne rien faire, du moins pour le moment. Vous lui proposez quoi en termes d'action?
Déjà, je vais juste préciser un peu plus.
Oui.
Si on atteint le million de signatures, en fait, il va y avoir plusieurs étapes. Une fois le million de signatures atteint à la fin de la campagne, les États membres vont avoir 2 mois pour vérifier les signatures de chaque signataire, vérifier qu'en fait, il n'y a pas eu de fausse signature, donc il n'est pas possible, entre guillemets, de bourrer l'urne. Et une fois la vérification des signatures réalisée, comme vous l'avez dit, la Commission, elle a 6 mois en fait de travail pour proposer une réponse à la campagne. Elle est obligée d'y répondre, mais elle n'est pas obligée d'agir, comme vous venez de le dire. Nous, on espère qu'elle le fera, et on a du soutien au niveau européen, politique, de la part de nombreux eurodéputés et de l'intergroupe LGBTI au Parlement européen. Donc on compte faire pression si on arrive à avoir le million de signatures. Et en fait, ce qu'on lui demande, c'est dans un premier temps, et très rapidement, d'émettre une résolution non obligatoire aux États membres, afin de leur demander d'interdire ces pratiques et aussi d'expliquer aux États membres quels moyens législatifs ils doivent utiliser, parce que parfois il y a des interdictions qui ne sont pas efficaces. Comme par exemple, si je prends l'exemple de la Grèce, qui a été un des premiers pays à interdire les thérapies de conversion, leur interdiction, elle ne s'applique que pour les médecins enregistrés à l'ordre des médecins qui recevraient une gratification. C'est-à-dire qu'un médecin qui réalise une thérapie de conversion, entre guillemets, non gratifiée, ne sera pas poursuivi par la justice. Et une personne qui n'est pas médecin, elle non plus. Donc en fait, c'est une interdiction qui n'est pas du tout efficace. Et on demande à la Commission européenne, du coup, de communiquer sur ce sujet et d'expliquer aux États membres comment interdire ces pratiques et pourquoi elles doivent le faire. C'est un engagement qu'elle avait pris et qu'elle devait faire avant 2025. Il semblerait aujourd'hui qu'elle ne va pas le remplir avant l'échéance. Et on est là pour lui rappeler. Et dans un second temps, on demande à la Commission d'interdire ces pratiques par 2 moyens. Elle choisira entre les deux. Soit en inscrivant les pratiques de conversion dans la liste des crimes qui sont interdits par l'Union européenne. Car oui, il y a une liste de crimes dits européens que l'on retrouve dans les traités. ou en interdisant ces pratiques via un amendement, juste un simple amendement très simple à la législation européenne sur l'égalité, la dite directive égalité européenne.
Et donc vous avez jusqu'au 17 mai 2025 pour récolter le nombre de signatures suffisant. Et quels sont les moyens que vous avez mis en place justement pour y parvenir, pour atteindre le maximum de signatures, de sensibiliser le maximum de gens?
Ouais, exactement. On a lancé la campagne le 17 mai 2024, donc le 17 mai 2020 dernier, car le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre les LGBTI-phobies, et en respect du droit européen, comme vous l'avez dit, on a un an, donc jusqu'au 17 mai 2025, pour avoir ce million de signatures de citoyens européens qui, je précise, doivent être en âge de voter dans leur pays. Pour pouvoir signer l'initiative citoyenne européenne, il faut pouvoir voter. Et actuellement, il convient de préciser qu'on a passé le cap des 100 000 signatures sur notre campagne, dont une grande partie vient de citoyens français. Et pour récolter ces signatures, nous, à ACT, on mise essentiellement sur les réseaux sociaux, car malheureusement, on est une petite association étudiante qui ne dispose pas d'une trésorerie très large pour mener une campagne de grande ampleur sur le terrain. Et on compense le manque de trésorerie, entre guillemets, par notre créativité, notre connaissance des réseaux sociaux. Pour faire campagne, on repose sur des personnalités publiques et des influenceurs qui relaient le lien de la pétition sur leur réseau et qui, chaque fois qu'ils le font, ont un impact énorme en termes de signatures. Très concrètement, un ou une influenceuse qui a, je sais pas, 50 000, 100 000 abonnés peut nous rapporter plusieurs milliers de signatures en moins de 24 heures. Et donc désormais, après une pause estivale, la campagne va reprendre et notre but à ACT, c'est de trouver le plus de personnalités publiques possibles dans l'Union européenne, donc de différentes nationalités, afin de relayer la campagne sur les réseaux sociaux, afin que les personnes se mobilisent et signent la campagne pour parvenir au million de signatures avant le 17 mai 2025. On travaille également à publier des témoignages de victimes dans différents pays, actuellement notamment en France et en Italie, et on compte sur le relais politique au niveau européen en collaborant avec divers eurodéputés de diverses nationalités.
Et comme on a pu voir, l'initiative citoyenne européenne est un réel outil démocratique qui permet aux citoyens européens de s'exprimer et de pouvoir soutenir donc les causes qui leur sont chères. Comment, du coup, les auditeurs qui seraient intéressés pour soutenir votre ICE peuvent procéder, même, et puis s'il y avait aussi des citoyens européens qui nous écoutent, qui pourraient aussi faire augmenter les signatures de ce côté-là, comme les Français sont majoritaires pour l'instant en termes de signatures.
Oui, bah, exactement. En fait, toute personne qui dispose d'une carte de nationalité d'un des 27 pays de l'Union européenne peut signer une initiative citoyenne européenne. Toute personne peut soutenir cette initiative. Et pour nous soutenir à ACT, on va dire qu'il y a à peu près deux moyens de le faire. Dans un premier temps, ça serait prendre 30 secondes et signer la pétition en ligne sur le site de la Commission européenne, très simplement et très rapidement. Et dans un second temps, faire connaître la campagne, partager le lien à ses amis, à sa famille, ou simplement sensibiliser votre entourage en lançant le sujet, en posant la question « Hey, toi tu connais, t'as déjà entendu parler des thérapies de conversion, est-ce que tu sais ce que c'est ?» Et juste briser le tabou afin de mettre le sujet sur la table et sortir du brouillard, parce que c'est un phénomène qui est très répandu en Europe, mais dont on parle en fait très peu en réalité.
Est-ce que vous voulez terminer avec un dernier mot peut-être pour nos auditeurs?
Déjà un mot pour vous remercier de l'invitation, mais j'en profite pour vous inviter à nouveau tous les auditeurs et toutes les auditrices à aller signer l'initiative citoyenne européenne que nous portons. Vous pouvez la trouver sur nos réseaux sociaux @act-lgbt, act-lgbt, ou simplement sur le site de la Commission européenne en cherchant Initiative citoyenne européenne sur votre moteur de recherche. Je vous remercie.
Très bien, ben je vous remercie beaucoup Matteo Garrillo pour le temps que vous nous avez accordé. Et je remercie les éditeurs aussi de nous avoir écoutés. Et donc comme l'a dit Matteo, n'hésitez pas à soutenir l'ICE et de vous rendre sur le site qu'il a lui-même nommé pour aussi, pourquoi pas, soutenir d'autres initiatives qui sont enregistrées et qui n'attendent que votre soutien. Vous pourrez également retrouver la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, au village associatif de la Marche des Fiertés de Limoges, ce samedi 14 septembre à la Place de la République. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique.